crème du hip-hop québécois. Avec votre MC, Nick Leclerc.
Lundi, 18h30.
Au 94.3.
Shiz.
Oh yeah, Shiz.
Pour le meilleur beat, beat Nick Showman. Je le dis, c'est malade.
Semaine, la semaine prochaine c'est good. Désolé, j'ai pas d'expact depuis un bout. J'ai quelques regrets, mais je reste debout.
Écoute locale avec Shiz 94.3.
Bon dimanche midi à tous, bienvenue à des Kiwi Dinners, l'émission la plus fruitée de la Norderie et éventuellement votre rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches midi. Donc avec moi encore nos deux fidèles chroniqueurs, donc Jérémy et Mathieu. Bonjour messieurs.
Bonjour,
bonjour, bonjour.
Et sans lubrifiant, sans plus tarder, on va donc commencer à parler de nos anecdotes, si jamais vous en avez. Donc, si vous êtes nouveau à l'émission et que vous nous écoutez pour la première fois en ce moment, on commence toujours en mentionnant des anecdotes, des éléments comiques, des trucs qui nous sont arrivés pendant des parties de jeux de société, des parties de jeux de rôle, des jeux vidéo, ce genre de choses, avant de parler de nos chroniques.
OK, ben écoutez, moi, j'ai passé les deux dernières semaines à Montréal. Il y avait une espèce de festival de musique classique avec l'OMS. Okay. Et il y avait un segment qui était censé être de jeux vidéo puis de musique de film, c'est ça. Ouh. La musique de jeux vidéo puis la musique de film. Malheureusement, j'ai pas pu aller, là. C'est tragique, là. J'étais pogné à faire la lessive ces jours-là. C'est tragique, tout à fait. J'ai pu écouter la musique de jeux vidéo sur mes écouteurs pendant que je faisais la lessive, fait que je me disais que c'était pas un trop mauvais substitut, mais comme quoi, c'est pour vous dire, des fois, là, vous avez vraiment des beaux spectacles là, à Québec, à Montréal, n'importe où. Là. Puis, ils jouent de la belle musique que vous allez reconnaître, que vous allez aimer de film, le jeu iconique, là, puis mm-hmm. ça coûte pas cher. Des fois, c'est carrément gratuit.
Ah, tout à fait, il y a quelques années, en plus, à l'émission, on avait une chroniqueuse qui avait mentionné qu'elle était allée voir un spectacle orchestral de musique de Mario Bros. Donc, ils avaient joué notamment les fameuses chansons qui, normalement, sont en 8 bits. Mais là, c'était un orchestre au complet qui jouait. Ça devait être quand même assez fascinant. Et de ton côté, Mathieu?
Moi récemment, je suis allé dans un festival de films, des festivals des films pour l'environnement de Saint-Casimir. C'est vraiment un festival à pas manquer. Kino Mada font des Kino Québec, mais excusez-moi, ouais. Je faisais partie du cabaret Kino. On a fait plein de films. J'étais avec notre très très aimé animateur entre autres à cet endroit-là. Ça a été assez spécial. J'ai très très belle expérience pour moi. J'étais vraiment content. Il y a eu mon anecdote en fait, c'est surtout un clash autour du karaoké. Il y a vraiment des visions, qui peuvent être un peu diamétralement opposées autour de cette forme d'art, ma foi postmoderne, assez intéressante. Excusez-moi mes grands mots. Mais tu sais, moi, je suis genre, humblement, je pense que je chante bien. Beaucoup de pratique,
oui,
surtout. Puis, c'est un karaoké, tu sais, j'en profite pour essayer des tunes qui sont difficiles, que j'oserais pas faire en show, tu sais. Fait que je me retrouve souvent être un peu comme l'iconoclaste de la soirée qui vient clasher des affaires. Fait que, bref, tout pour dire, si vous mettez cœur de rocker, je vais bougonner un petit peu. Puis, s'il y a du Claude François qui part, beaucoup trop difficile à chanter, ça risque d'être moi.
Parfait, ça. Donc, vous savez quoi faire si jamais vous croisez Mathieu dans un bar devant un karaoké.
Yes!
De mon côté, moi aussi, effectivement, je suis allé au Festival de films pour l'environnement. D'ailleurs, je tiens à féliciter ton jeu d'acteur d'épaule, Mathieu. 10 sur 10.
Merci. J'ai été assez impressionné quand il y a des étudiants de cinéma qui sont venus justement pour faire une entrevue pour ce rôle-là. Pour le bien fondé de nos auditeurs, en fait, Kino, c'est un laboratoire. On passe 72 heures, on fait le plus de films possible. Moi, j'étais allé un peu comme comédien, j'ai joué dans plein de films. Puis j'ai fait ma réalisation au moins autour de Alain Grandbois qui vient de Saint-Casimir. Et puis Jérémy, pour le concept, lui, il faisait des petites capsules qu'on a pris puis qu'on a mis entre chacun des films. Et puis il y en a un où c'est qu'on voit comme on voit mon épaule puis mon bord de chapeau puis c'est tout, tu sais, c'est correct là. Mais après ça, on est au bar puis on est dans le pool room de l'hôtel. Puis là, il fait semblant qu'il est beaucoup trop content de me voir parce que ce rôle-là était vraiment marquant dans ma filmographie. Ouais. C'est un peu ça la blague.
Ah, il y avait beaucoup de plaisir pendant ces tournages-là.
Ah, ben il fallait.
Ah, ben oui, mais oui. Parce que pour ceux qui l'ignorent, 72 heures pour faire un film, c'est très peu. En fait, la moyenne des courts-métrages va généralement prendre 3 mois à faire et ça, sans compter la pré-production.
On calcule généralement 1 minute par jour de tournage. Ouais. Donc, calculer toute la pré-prod, toute la post-prod, c'est pas mal plus ardu que 72 minutes. Ouais. 72 heures, dis-je. Évidemment, c'est un beau défi. C'est vraiment agréable, mais tu sais, c'est des équipes Welling qui se ramassent là. C'est du monde qui a envie d'être là pour ça. Fait que c'est vraiment le fun. Ouais. Impliquez-vous dans votre kino local.
Oui, pour tout à fait. Moi, je pense juste au fait que j'ai remis ma dernière capsule 15 secondes avant que ça finisse. Là, j'étais tellement stressé sur mon ordinateur. Lorsque j'ai terminé, il a fallu que j'aille dehors sur le balcon. J'en pouvais plus, j'étais à terre. Mais non, c'est vraiment un rush. C'est pas le fun. Puis aussi, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en 72 heures, on n'en vit-tu pas assez des affaires avec le monde avec qui travail. On va vivre des grands moments de joie, des grands moments de peine. Tout est comme amplifié parce qu'on est tout le temps sous le stress. On a 2 heures de sommeil. Il y a personne qui dort. Puis même lorsqu'on dort, parfois, il y a des gens qui font des films la nuit. C'est pas arrivé cette année. On n'avait pas Marc Thibault avec nous qui généralement fait des films d'horreur, ce qui fait qu'à minuit, 1 heure du soir, on entend des jeunes demoiselles crier dans l'hôtel. Mais c'était quand même fort, fort agréable. Et comme a dit Mathieu, en fait, allez à votre cellule kino locale. Il n'y a pas besoin de plus que la volonté de faire des films si vous voulez faire des films. Est-ce que vous allez faire des chefs-d'œuvre? Probablement pas, mais est-ce que vous allez avoir du fun? Est-ce que vous allez évoluer? Est-ce que vous allez en apprendre plus sur les métiers du cinéma?
Assurément.
Assurément.
Faire des belles rencontres aussi.
Ben oui, aussi, évidemment.
C'est formidable.
Je peux prendre la balle au vent?
Ouais, vas-y.
La balle au bon?
Ouais.
Oui, c'est ça.
La bon à balle.
Oui, la bon à balle. On parle de 72 heures, de faire beaucoup de rencontres et de très peu de sommeil. Étonnamment, ça a beaucoup rapport avec mon sujet de l'émission.
Ah, ben oui.
OK.
Oui. Je le prends de même parce que t'allais m'apporter.
J'allais t'introduire de toute façon.
Ben c'est ça, tu sais.
Hey, travail d'équipe, toi.
Pas là, travail d'équipe. Désolé pour. Moi, je viens de vous parler de Stardew Valley aujourd'hui. C'est un jeu que beaucoup de monde doivent connaître, en fait. Là, il y a comme 415 000 évaluations sur Steam de ce jeu-là et c'est une évaluation qui est.
Globalement,
extrêmement positive. Là. On parle d'un métacritique de 89. Là. C'est un jeu exceptionnel. Mais ce qui est intéressant de Stardew Valley, en fait, qui est présentement. C'est un jeu en bas de 20$. Là. C'est un jeu indépendant. Le gars, il a fait ça tout seul. Puis c'est ça, justement, qui est intéressant. C'est-à-dire que la durée de vie du jeu, le 72 heures en question, est à peu près de 72 heures, un petit peu plus. Moi, je suis un fou. Là. J'arrive à 600 heures. Mais oui, et le rencontre, c'est que c'est ça qui est au cœur du jeu, en fait. Et là, je vais partir du début, en fait. Stardew Valley va être un jeu indépendant développé par une seule personne, Eric Barone. À ne pas mélanger avec le recordman de vitesse en VTT qui s'appelle aussi Eric Barone. C'est pas la même personne. C'est un gars de Californie qui va déménager à Washington quand il est jeune, l'État de Washington, dans le coin de Seattle. Il va faire un bac en informatique, puis suite à ça, il arrive pas à trouver de travail, comme du tout, il trouve pas de job. Fait qu'il se met à développer son jeu pour apprendre le codage. Mm-hmm. Fait que c'est comme ça qu'il va apprendre. Mais il se met là-dedans, puis il se met là-dedans tout seul. Fait que pendant 4 ans et demi, il va travailler. Dépendant des sites puis des sources que j'ai lues, ça varie. Il y en a qui disent comme 12 à 15 heures par jour. C'est pas impossible des fois, mais bref, il travaille à tous les jours au moins 10 heures par jour. C'est un peu comme
un
fou.
Il est vraiment dedans.
Il est vraiment dedans. Sauf qu'à l'affaire, ce qui est long, c'est que, un, c'est un très grand perfectionniste, mais surtout, c'est qu'il apprend tout sur le tas. Puis il va pas voir des gens qui l'apprennent, qui le savent déjà. Il va voir sur des forums, il va voir sur des trades, puis il s'informe à propos de ça, à partir de ça. Puis c'est là qu'il va faire sa formation, tu sais. À un point tel qu'à la fin, je veux dire, il allait travailler au théâtre, il revenait, il faisait ça, puis il passait un petit peu de temps avec sa blonde, point barre.
Ouais.
Sa blonde, à la fin, qui était tannée, tu sais. Puis la façon qu'il dit, c'est que, tu sais, psychologiquement, en fait, ça le touchait vraiment de pouvoir dire qu'il pouvait perdre son temps, tu sais, que ça aurait pu être comme 4 ans de perte de temps. Fait que sa stratégie, c'était de convaincre les gens autour de lui que qu'il était bon puis que ça allait être bon. Mais sa technique, en fait, moi, c'est un peu ma technique pour apprendre des textes, apprendre des... Ben, en fait, j'écris de la même façon que qu'est-ce que lui définit.
Ben, t'es dramaturge.
Oui, ben, poète plus que dramaturge, moi, personnellement. Là.
Ouais.
Mais tu sais, ma façon d'écrire est un peu la même technique que lui disait, c'est-à-dire que il crée quelque chose. Quand ce petit morceau-là est fait, il continue à d'autres choses, puis après ça, il revient au début. Puis tout le temps, t'en reviens tout le temps au début, puis t'en repasses tout le temps parce qu'est-ce que t'as fait au-dessus avant. Fait que ça te permet tout le temps de repasser sur des détails, de refignoler des points que t'aurais manqués, puis que tout a une unicité en tant que tel.
Ouais.
Fait que, bref, il sort de là, il a pas de job, il travaille là-dessus pendant 4 ans, 4 ans et demi. Il va être, le jeu va sortir, il commence à travailler là-dessus en 2011, il va mettre le jeu sur Steam Greenline en 2012. Il va s'associer avec Shugglefish, c'est eux autres qui avaient fait Starbound. Starbound, donc il va utiliser, il va s'associer avec Shugglefish pour faire l'édition du jeu. Ensuite, c'est un jeu qui est programmé en CDIs. C'est un langage que je connais pas du tout, les langages.
C'est un
là.
Vieux langage de,
ben,
de
moi, ce que j'ai lu, c'est un mélange de C++, de C++, puis avec une base de Java.
C'est ça, ça remonte à loin. Là.
Ouais, ben on est en 2011, hein, ouais. 2011-2012. Puis il va faire l'intégration avec Microsoft XNA, qui est gratuit, en fait. Là. Donc, c'est assez intéressant pour ça. Puis, il va s'inspirer beaucoup de ses jeux d'enfance, particulièrement Harvest Moon.
Oui.
Et c'est là que je dis que t'as rencontré des gens, en fait, parce que... Moi, je suis un joueur de performance. T'sais, je joue à SimCity, les histoires, ça m'intéresse peu. Ce que j'aime, c'est optimiser mes affaires. Mm-hmm. Fait, t'sais, ma grosse ferme de Stardew Valley, où c'est que j'ai 7 ans de fête, est comme multimillionnaire. Ça s'appelle l'hydrognerie. Mon but, c'était de faire des fruits, faire du vin, faire le plus de cash possible. Puis comme de fait, c'est réussi. T'sais. Mais je me suis fait dire par des joueurs aussi expérimentés que moi, ou un peu plus, et ils ont sans doute pas tort là-dedans, que le plus intéressant de ce jeu-là, c'est... d'aménager ta ferme, d'aménager ton terrain, de rencontrer des gens, de voir l'histoire. Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là. C'est-à-dire que c'est pas tant un simple jeu de gestion, tant plus que vraiment c'est présenté comme un RPG.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que ton personnage va avoir des niveaux que tu vas pouvoir augmenter, autant en fermage, en farming, excusez-moi les termes, là, mais autant en agriculture, ouais, qu'en cueillette, qu'en minage, ou qu'en pêche et compagnie. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnages ont toutes des routines, ont toutes des vies, et à force de développer des relations avec eux autres, tu vas développer des pans de scénario qui vont te permettre d'approfondir l'histoire. Et il y a vraiment quelque chose de très riche, en fait, dans cette histoire-là. Aussi avec un il y a eu plusieurs améliorations qui ont été faites au jeu à travers le temps avec un mode multijoueur aussi là. Mode cool. Multijoueur que Eric Baron était un peu déçu d'annoncer, il l'a fait développer par quelqu'un d'autre parce que lui il travaille vraiment tout seul.
Ouais.
Mais ça donne autant c'est un jeu qui est long, autant que ça donne une dynamique vraiment intéressante d'être capable de travailler avec d'autres personnes là-dessus. Donc ça va sortir sur vraiment plein
plein de plateformes.
Oui, effectivement, merci.
Puis je vois aussi qu'on peut jouer jusqu'à 4, en fait.
Oui,
en
exactement, c'est ça que je parle du multiplayer, là. Donc on peut jouer jusqu'à 4 personnes. Puis il y a plusieurs façons de gérer ton multiplayer comme ça. T'sais, tu peux avoir la même bourse d'argent. Tu peux séparer cette bourse-là à plusieurs. Il y a plusieurs types de cartes aussi pour les avoir à peu près toutes faites, là. Si vous voulez aller dans la grosse agriculture, je vous conseillerais la carte de base. Puis sinon, la carte forestière est le fun pour le petit bonus qu'elle donne. Là. Puis il y a la très grande carte de multijoueur qui est intéressante parce qu'elle est vraiment immense, puis elle donne un petit peu de toutes les affaires. Là. Mais vraiment, là, s'il y a des gens qui n'ont pas joué à ce jeu-là, puis tu sais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est un jeu vraiment indépendant.
Ouais, ben ça a été fait. C'est un one-man army.
C'est un one-man army. Là. Le gars, il est tout seul, il a travaillé là-dessus 4 ans, 4 ans et demi, 5 ans. Il a fait des updates. On est rendu à la version 1.5, qui a racheté vraiment beaucoup de détails. Fait que si vous avez joué un peu, quelques heures, il y a quelques années, ça vaudrait la peine de revenir. Si vous n'y avez jamais joué, sautez là-dedans. Sérieux, vraiment, là, c'est moi, ça a été mon jeu des dernières années. Là. Peut-être au-dessus de City Skyline, peut-être. Mais ça, ça sera...
Les
City Builders, ça sera probablement une autre chronique de ma part. Là. Okay.
Puis pour ceux qui sont pas encore pleinement convaincus des évaluations sur Steam, on a du 5 sur 5, on a du 95 sur 100, on a du 95 sur 100. Et les évaluations des utilisateurs, c'est 10 sur 10.
Oui.
Et je sais pas si vous avez confiance, mais normalement, les utilisateurs Steam sont quand même assez gripsou sur les 10 sur 10.
Ouais, ils sont assez méchants. Là. Le Civilization 6 est assez mal noté, étonnamment.
Ouais. Même si c'est objectivement,
c'est un excellent jeu.
C'est pas un mauvais jeu.
Non, 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 du tout.
C'est pas aussi bon, je le préfère pas autant que Civ 5, fait que 0 sur 10. Des fois, ça fonctionne quand même.
C'était mon sujet de ma dernière chronique. Moi, Civ 6, j'aime beaucoup, beaucoup la dynamique de quartier. Je trouve que ça change complètement le gameplay. Okay. Fait que pour moi, c'est un non-retour. Là. Je veux dire, j'en joue à Civ 5 avec du monde qui n'ont pas Civ 6. Puis c'est pas inintéressant, mais le fait d'avoir les quartiers, ça te force tellement à décider comme 100 tours à l'avance.
Ouais.
Moi, je trouve ça incroyable. Là. T'as pas le choix de faire ton
particulièrement
planète,
lorsque tu veux jouer pour de la performance. Là. Lorsque ce que tu veux, c'est optimiser. Quand il faut que tu te prépares 100 tours à l'avance, t'es quand même assez content.
Oui, c'est ça. Puis quand tu veux faire de la performance avec Stardew, il y a un peu ça aussi. T'sais. C'est niaiseux, mais à toi le matin, il faut que tu regardes ta TV pour voir c'est quoi les chances que t'as quand tu vas à la mine, puis c'est quoi les recettes de nourriture. T'sais, moi, je suis rendu que je boque pour avoir les deux dernières. T'sais, j'essaie d'avoir le 100%,
ouais.
Mais il me manque des recettes que la première année que j'ai manqué. Puis là, à chaque fois que je regarde les rediffusions dimanche, je les ai pas. Fait que faudrait que j'en fasse une nouvelle game pour regarder la TV à tous les jours pour avoir toutes les recettes de nourriture. Fait que c'est des niaiseries de même quand tu veux vraiment faire la performance. Mais en même temps, tu sais, c'est peut-être un bout que j'ai manqué de Stardew Valley, de dire que c'est juste... On s'en fout, tu sais.
Ouais.
C'est ça qui est intéressant aussi dans ce jeu-là, tu sais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps. Mm-hmm. Tous les événements, ils sont récurrents, donc ils reviennent.
Sauf les recettes, apparemment.
Non, mais en théorie, ils reviennent. C'est juste que... Ben, je sais pas. Peut-être parce que j'ai une cabane de joueurs invités que ça fait que j'ai... Normalement, les rediffusions, ouais. C'est des recettes que tu n'es pas supposé connaître. Moi, à tous les semaines, c'est des recettes que je connais, mais en même temps, ça fait un. Ouais, en tout cas. Bref. mais c'est ça, c'est vraiment ça qui est intéressant. Puis, comme. Exemple, il y a vraiment un côté humain un peu vivant là-dedans. Les animaux, tu ne vas pas les tuer en tant que tels, il faut que tu en prennes soin. Mm-hmm. Si tu n'en prends pas soin, ils vont arrêter de produire. Toutes les relations que tu développes avec les personnages aussi, le fait de pouvoir les marier, puis tout. Puis, en même temps. C'est drôle parce que tu sais, il y en a qui font des let's play de salauds là avec, ouais. Ce jeu là, tu sais, c'est ça qui est drôle aussi, remarquez, ça reste,
c'est qu'on peut faire ce qu'on veut.
On peut faire ce qu'on veut, c'est un gros RPG, tu sais, ouais. C'est ça qui est cool, tu sais. C'est un peu ça. Puis c'est ça, puis son projet au début, tu sais, il s'est associé avec Chucklefish, puis il y a eu trois streamers là qui faisaient du gameplay en live là, qui l'ont vraiment aidé pour tweaker le truc, fignoler le travail.
Ouh.
Merci. Donc, un peu plus de 500 heures qu'eux autres y ont mis là, là-dedans. Puis, tu sais, ça, comme tu disais, là, c'est un succès monumental.
Ouais.
Là, il a vendu comme 200 000 jeux dans les deux premières semaines, 1 million dans les deux premiers mois. Puis, ça a juste continué, ça a juste monté.
Comme ça a été 4 ans dans la misère, mais une fois que le 4 ans y était passé, le gars, il s'est mis bien. Là.
Ah oui, ouais, c'est ça. Il est rendu rentier jusqu'à la fin de ses jours.
Ah, il est mort de rire.
Fait que là, à cette heure, ben, tu sais, il travaille sur un nouveau jeu qui est supposé être Until Chocolatier, donc le chocolatier en. Il dit que moi j'ai vu les graphiques de base, ça a l'air assez semblable au premier game, à l'autre jeu avant. Par contre, il dit que ça va être axé un peu plus combat. Effectivement, c'est peut-être le côté qui est lacunaire là, dans Stardew Valley. Alors, remarquez que les nouvelles extensions viennent rajouter la possibilité de forger des anneaux ensemble, puis d'améliorer les armes, puis de faire. Donc ça, c'est intéressant, là, ça rajoute un niveau. Mais c'est d'abord et avant tout, c'est un jeu à la limite contre. Pas contemplatif, là, mais...
C'est un simulateur,
là. Oui, oui, mais tiens, RPG. Je veux dire, tu y vas, tu joues, tu prends ton temps, puis... Tu sais, la musique est super bonne aussi. D'ailleurs, le gars, il y avait un band de musique avant qui s'appelait... 17 Colorful Feathers.
Oh.
C'est un peu de l'expérimental folk techno. J'ai écouté, c'est spécial. Mais la trame sonore du jeu est extraordinaire. Mais tu sais, c'est ça, il a tout fait. Il faisait toute la musique, tout le design. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Là.
Ouais, ben aussi.
Puis la communauté est super active, puis il y a vraiment énormément de mods aussi.
Mm-hmm.
Fait que ça, c'est le propre aussi des gaming PC, hein, d'avoir des, ouais. Mods à pas finir. Ce jeu-là, c'en est un, là, vraiment, tu peux tout faire avec. Là, c'est vraiment ça qui est.
Effectivement, pendant longtemps, les développeurs ont comme essayé de combattre un peu cet aspect de modding, puis à un moment donné, ils ont fini par se rendre compte, ben là, c'est parce que si le monde, il mode mon jeu, c'est parce que ça veut dire qu'ils l'aiment, ils veulent l'améliorer, ils veulent ajouter des choses. Ça fait partie, au final, de créer un accès à la communauté, comme tu l'as dit, hein, une communauté, ouais. Qui est active. active, c'est une communauté qui va faire du mod notamment. C'est la raison aussi, Bethesda l'a quand même bien compris, c'est la raison pour laquelle Bethesda ont carrément rajouté une option pour installer les mods plus facilement.
Ouais, faire de l'argent avec en même temps.
Ben, c'est ça, parce que les gens vont installer des mods de toute façon, fait que on peut combattre ça puis pas faire partie de la gang, ou alors on peut être les cool puis installer quelque chose qui nous permet de le faire. Puis c'est ça qui fait que la durée de vie d'un jeu va souvent augmenter. Skyrim, il y a encore des gens à ce jour qui y jouent, mais la grande majorité, ils utilisent des mods, ils rajoutent des trucs. C'est...
Définitivement. Puis j'avais l'exemple aussi de... J'ai StarCraft en tête, mais ça n'a pas rapport. Avec des cubes. Là,
Minecraft.
Minecraft, oui. Mais c'est ça, tu sais, Notch aussi, là, il a travaillé tout seul là-dedans. Fait que, ça aussi, c'est une inspiration pour Baron. T'sais.
C'est ça, fait qu'au final, c'est quasiment comme si le jeu devenait un peu open source, en fait. C'est, tout le monde peut rajouter sa pierre à l'édifice. Ça ne veut pas dire que ça va être canon dans l'histoire. Je veux dire, il y a d'excellents modes d'histoire qui, j'imagine, aussi dans Stardew Valley.
Définitivement, il y a des modes qui vont rajouter. Qui vont racheter une carte complètement différente. Tu sais, le scénario, c'est que tu travailles en ville dans un bureau, ton grand-père meurt, tu veux te sauver de ça, puis tu t'en vas ramasser sa ferme. Mais la ville en question, ben, c'est Xulouville, tu peux revenir la visiter puis aller dedans, tu sais.
Ouais, ben effectivement, mais ça me fait aussi beaucoup penser au scénario des Harvest Moon. Je sais pas si dans ce cas-ci c'est un.
C'est une expression directe en fait, vraiment là. C'est ça que Baron disait, c'est que dans Harvest Moon, tu sais, tu pouvais rencontrer les gens, discuter avec eux autres, avoir une femme, avoir des enfants. À moins que je me trompe, là, c'est ça que j'ai compris. Mm-hmm. Parce que moi, Harvest Moon, je veux dire, je sais c'est quoi, mais j'ai pas joué dans le temps. Là.
Ben pour comparer.
Ça a été une grosse inspiration pour lui, vraiment. Là.
Pour comparer un petit peu dans Harvest Moon, en fait, c'est surtout concentré sur le fait de bâtir ta ferme, d'éliminer ce genre de choses-là, un peu comme Stardew Valley. Sauf que si tu veux obtenir les crédits de fin de jeu, ben il faut te marier, en fait. Ouais, ce qui est quand même assez drôle, parce qu'au final, le jeu est quasiment en train de te dire que le mariage est une finalité. Fait que pour ça, ben il faut que tu développes tes relations avec les autres personnes. Puis éventuellement, lorsque tu parviens à te marier, je crois qu'elle finit par emménager avec toi. Elle va t'aider avec ta ferme. Puis si tu cultives encore votre relation, elle va tomber enceinte. Puis éventuellement, vous allez avoir un bébé. Le bébé va commencer, il va être uniquement dans le lit au départ, ce qui fait qu'il va prendre un spot où ce que toi, tu es censé dormir en temps normal. Fait qu'il va commencer un peu en malus. Puis ensuite, au fil du temps, plus la partie va avancer, plus l'enfant va vieillir. Je pense que certaines versions, ce que l'enfant finit par t'aider dans ta ferme. Mais moi, la version sur laquelle j'ai joué, c'est il y a longtemps, là, c'était sur Game Boy. Fait que l'enfant, lorsqu'il atteint 6-7 ans, il joue avec son ballon, puis ça s'arrête là. Mais non, de ce côté là, ça se file vraiment comme un hommage, parce que la manière dont le jeu commence, c'est que ton grand-père est décédé, il t'a légué sa ferme, tu y vas, tu retombes sur le chien de ton enfance, puis tu te rends compte que la ferme a complètement été abandonnée, puis puisque c'est ton héritage, ben c'est à toi de le...
Ouais, non, c'est ça, carrément, là, c'est vraiment inspiré de ça, mais tu sais, il dit ouvertement, là,
ben oui.
On s'entend pas, mais... en même temps, je dirais. Tu sais, j'en parle au monde, puis c'est comme, c'est quoi? Ah, ben regarde, c'est comme...
C'est Harvest Moon,
mais RPG.
Puis c'est pas péjoratif, là. C'est pas un défaut. Au contraire, non, c'est une très grande qualité. Harvest Moon,
c'est une référence culturelle aujourd'hui, ce jeu-là.
Ben oui, Harvest Moon. Superbe. Est-ce que tu avais fait le tour de ce que tu avais à dire?
Oui, je pense que oui. Vraiment. Juste répéter. Vraiment, si vous n'avez pas joué à ce jeu-là, sautez là-dessus. C'est un chef-d'œuvre.
Formidable. Il nous reste encore 5 minutes avant d'aller à la pause. Fait que je proposerais de faire des petits tours de table pour qu'on parle de vos RPG / jeux de simulation préférés, hormis Stardew Valley. Bon, moi, sans surprise, je vais parler un peu d'Harvest Moon, parce que le jeune Jérémy sur la Game Boy, je pense qu'il a dû passer tout son temps à... C'était soit ça, soit Pokémon. Mmh. Puis j'étais tout le temps rendu sur ma Game Boy. Là, je me rappelle, même au secondaire, en fait, j'étais très asocial. Je me présentais, j'étais en cours, je sortais de mon cours, je ressortais ma Game Boy, je recommençais à jouer. Je me rappelle aussi qu'il y a des petits easter eggs qui sont disséminés un peu partout dans Harvest Moon. Harvest Moon, si je ne m'abuse, c'est un développeur japonais. Et dans le jeu, en fait, il y a une séquence où lorsqu'il arrive, je crois, 1h11 du matin dans le jeu, si tu vas regarder ta télévision, l'écran va se mettre à gricher. Donc là, tu fais « OK, c'est bizarre ». Puis là, si tu continues à avancer le temps, éventuellement, tu arrives à 4h44, puis lorsque tu vas aller sur ta télévision, ben là, il y a plein de cartes qui vont apparaître sur ton écran, puis il y a une petite musique creepy qui va apparaître. Fait que là, tu sais, moi, à l'époque, je suis là, je me dis « Ben là, pour 4, qu'est-ce ça fait pas peur. 4, là, pourquoi il y a une musique bizarre? Fait que j'étais allé, je pense que c'est la première fois que je suis allé lire sur des historiques de jeux. Bien, c'est parce qu'en fait, au Japon, 4, c'est très similaire en prononciation avec death, la mort. Ce qui fait que la raison pour laquelle il y avait une musique creepy, c'est encore une fois, c'est un truc qu'on peut pas le traduire, là. C'est que 4, en fait, si tu y joues en japonais, c'est écrit death, ouais, mort.
Genre de creepypasta installé à l'extérieur du jeu.
C'est ça, exact. Okay. Mais qui ne fonctionne pas lorsque tu passes en français ou lorsque tu passes en anglais. Okay. Tout simplement parce que la prononciation est pas pareille. Tu sais, death puis fourth, c'est pas la même chose. 4 puis mort, ça sonne pas pareil. Mm. Mais au Japon, c'est très similaire. Puis même que c'est la raison pour laquelle 4 est le chiffre qui est souvent associé avec la mort. Fait que si jamais vous avez regardé à la maison des films japonais dans lesquels le chiffre 4 revenait régulièrement, ça, c'est la raison pour laquelle c'est le cas. Comme de quoi, ça permet de se cultiver aussi que de voir des easter eggs.
Ah, tout à fait. D'autant plus que c'est une des belles choses à propos des jeux vidéo, c'est qu'il y a vraiment comme deux grands pôles historiques pour la création du jeu vidéo. Il y a les États-Unis, puis en second degré aussi l'Europe. Mais le Japon, c'est l'une des mecs majeurs du jeu vidéo. Fait qu'il y a toutes sortes de choses.
Jeux vidéo d'animation.
Aussi, ben ouais, tout ça, mais je veux dire, même des consoles de jeux vidéo, je veux dire,
ouais, c'est vrai qu'ils sont quand même leaders. Ouais,
c'est exactement, genre Nintendo, Sony, mais toutes sortes de studios, Square Enix, toutes sortes de. Non, vraiment, à une certaine époque, attends, comment est-ce qu'il s'appelait, mon Dieu, Konami, non, t'as vraiment des.
Bandai Namco.
Tout à fait, Bandai, vraiment, t'as une belle contribution au Japon, franchement. C'est un des trucs que moi, j'ai apprécié de découvrir le Japon, peut-être pas par le anime, comme bien des gens le font, mais plutôt par les jeux vidéo.
Par le biais de jeux vidéo, effectivement.
Il y a pas mal de Mr. Game aussi dans Stardew Valley, là, étonnamment. Ouais. Là,
Le jeu est propice à ça.
Moi, mon simulation préférée, je pense, c'est SimCity 4, en fait.
Ah ouais?
Ouais, SimCity 4, avec l'extension qui est venue avec. Surtout que, tu sais, le principe de région fait que tu peux avoir une carte, comme surtout avec les ordinateurs d'aujourd'hui, pratiquement infinie. Tu sais.
Ouais.
Puis vraiment beaucoup de mods, beaucoup de modage dedans. Puis en fait, il y a une affaire, moi, que j'aimais des SimCity, que j'ai de la misère avec les nouveaux City Builder plus modernes, c'est le principe que ça soit matriciel. C'est-à-dire que tu as vraiment une grille qui est à même la carte et non pas relative à ce que tu es en train de construire.
Ouais.
C'est un peu moins réaliste, un peu plus stratégique, sans doute, mais j'aime ça, construire quelque chose sur une grille qui est ancrée là. Tu sais. Pour moi, le jeu ultime de construction de ville, ce serait un peu SimCity 4 avec des meilleurs graphiques. Là.
Ouais.
Mais des hexagones au lieu des carrés, tout simplement. Tu mets SimCity 4 avec des hexagones, là, je pense que je pourrais passer 8000 heures sur ce jeu.
Wow. Ouais. Ben, juste petit aparté comme ça, mais on en avait parlé aussi dans ta dernière chronique, mais la différence entre les carrés et les hexagones est quand même assez massive. Hein,
quand même, oui, ça fait une grosse
juste
différence.
Parce que je me suis amusé parce que moi, je suis animateur de Donjons Dragons, c'est mon métier. Puis je me suis acheté beaucoup de matériel récemment, puis je me rappelle que je jouais tout le temps avec le côté carré de la Battle.net. Fait que là, je me suis dit, je vais essayer d'y aller avec les hexagones, puis. D'un seul coup, là, c'était devenu super plus clair pour tous mes joueurs qu'ils pouvaient aller en diagonale. J'avais pas besoin de leur faire des rappels. Il y a plein de petits éléments là, qui devenaient tout de suite beaucoup plus intuitifs. Alors que, tu sais, normalement, lorsque j'ai des nouveaux joueurs, j'ai tout le temps besoin de leur dire « Oui, je sais, c'est un carré, mais en fait, il faut que tu te déplaces d'un point à l'autre, ce qui fait que ton perso peut aller en diagonale. Ah, oh, je savais pas. Ah, ben non, là, avec les hexagones, c'est tout de suite plus intuitif. Ouais, fait toi. Que je... ça a l'air bizarre comme ça, mais je souhaite que pour l'avenir du jeu vidéo puis du jeu de société en général, on fasse plus de cartes hexagonales. C'est aussi bête que ça, mais ça fait une énorme différence au niveau du gameplay, puis ça fait que ça allège le travail du maître de jeu que tout cela.
Ah, tu vois, moi, je suis pas un tant grand fan de simulation que ça. Plus Grand Strategy, ça, j'ai joué à plusieurs jeux de grande stratégie, mais sinon, des jeux, un peu de simulation, j'en ai, peut-être que tu le connais, Mathieu, ça s'appelle Banished. C'est un petit jeu indie aussi, c'est une petite affaire. Moi, je suis pas un.
C'est
moi,
jeu de construction de exactement. Ouais, j'ai joué une quinzaine d'heures.
C'est sûr, exactement. Moi, je joue peut-être 30, 40 heures, je joue tranquille comme ça. Mais moi, je te dirais la référence. Pour moi, c'est vraiment juste. Ben, ça a l'air un peu quétaine. C'est Minecraft. Moi, j'ai commencé.
C'est un excellent jeu.
Moi, j'ai commencé à jouer à ce jeu-là, mais je veux dire, là, ça fait des années. Mais moi, j'ai commencé à jouer quand il était en bêta, toi, il y a longtemps, il y a genre 15 ans, quelque chose comme ça. 15, 16 ans, là, quand il a commencé. Quand tu l'achetais, c'était juste. C'était Mojang, puis c'était Notch, puis c'était pas toute l'affaire avec Microsoft. Franchement, là, si quelqu'un c'est c'est une expérience à essayer, ça c'est garanti.
Ben effectivement, Minecraft, je pense que c'est une belle opportunité à essayer de faire en famille. Je me rappelle, ça va te mettre dans une petite anecdote avant la pause. Lorsqu'on avait été confinés, en fait, puis qu'on pouvait plus sortir, ben avec mes amis, on avait fêté mon anniversaire à l'intérieur de Minecraft, fait qu'ils m'avaient fait un gâteau, on avait bâti des affaires. Fait qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant. Puis si vous êtes pas des gens qui aimaient les jeux vidéo en général, mais que vous voulez partager un moment en famille, ben ça peut être une belle opportunité de connecter avec vos jeunes. Donc on se revoit après la pause pour parler de plus de jeux vidéo tous ensemble et à tout à l'heure.
Depuis 25 ans, nous, on y passe à autre chose.
Ah yeah, yeah, ah yeah, yeah.
Chiz 94.3, la radio que tu mérites depuis 1997.
Écoutez toujours des Kiwi Dinners à Chiz 94.3.
Afin de vous mettre une petite mise en bouche, je nous avais mis la musique thème de Serralone, un des boss de DLC de Dark Souls 2, sur lequel je suis actuellement bloqué. Petit samouraï que je te déteste, on se revoit après l'émission de radio, toi et moi. Entre-temps, Jérémy, tu peux nous parler donc de ton... jeu de la semaine.
Ouais, tout à fait. On va dire, c'est vraiment comique un peu que Mathieu ait choisi un truc indie un peu parce que c'est exactement. C'est pas le même jeu. Par chance, c'est pas pris le même jeu.
L'animateur qui oublie de vous prévenir.
C'est ça le truc avec les jeux indie. C'est qu'il faut vraiment qu'on parle depuis genre peut-être 15-10 ans. Là, vraiment juste des jeux indie. Ils sont développés par une toute petite équipe. Ils font juste c'est juste des jeux élites. Ils détruisent.
Ça, c'est la force de l'Internet aussi.
Vraiment. Genre. Tout à fait.
T'as un rêve, tu veux le réaliser, let's go, start-toi crowdfunding, c'est possible.
Exactement, tout à fait. Moi, le jeu dont je suis venu parler aujourd'hui, ça s'appelle Katana Zero. Donc, je sais pas si vous avez jamais entendu parler, vous deux, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Katana Zero?
Non, tu vas m'apprendre pour la toute première fois ce que c'est.
Ben écoute, c'est sublime, c'est sur Steam aussi, peut-être qu'il est en rabais comme d'habitude à chaque fois que je me prends.
Ouais, habituellement, lorsque tu viens, les jeux passent en rabais.
Sont-ils en rabais?
Ah non!
Ah ok, c'est deux fois d'affilée quand même.
Tu pars de ton
prestige un peu. Chaque fois que je me présentais ici avec un jeu, il était tout le temps en rabais à 95%. Mais
puis
là...
souvent, il venait d'être mis en rabais. Je me rappelle, des fois, il y a un jeu, il a été mis en rabais à midi pile, genre, fait que 15 minutes avant que t'en parles, il venait de tomber en rabais, là, c'était fou. Mais non, pas
donc, c'est
pas.
Ça. Katana Zero, ben, c'est quoi? Ben, c'est un platformer, une espèce de platformer avec beaucoup d'action dans le jeu. Donc, c'est pas comme quelque chose qui ressemble plus à Mario où le défi, c'est de sauter par-dessus un obstacle puis d'essayer de pas tomber. Non, t'as vraiment du combat actif. Puis en gros, c'est un jeu où le style est juste trop génial. Genre, vraiment, l'esthétique du jeu, la couleur, c'est très néo-punk. Tu joues une espèce de dans un monde un peu post-moderne avec des fusils, puis ton personnage a un katana. Et en gros, le protagoniste dans Katana Zero, ben, qu'est-ce qui se passe? Il a comme des pouvoirs un peu... pas magiques, mais un peu surnaturels au sens où, à chaque fois qu'il meurt, quand on joue dans le jeu, il peut revenir dans le temps.
Ce qui signifie que c'est un roguelike.
C'est exactement ça. Ben, pas tout à fait, parce que t'as quand même une histoire. L'histoire, elle est fixe. Mm-hmm. Fait que c'est pas comme, des vrais roguelikes où tu peux...
Les roguelikes modernes, récents, ont pas mal toutes des histoires. Là, je pense notamment à Hades, où ça fait partie de l'histoire que le personnage meurt maintenant.
Ah, ben tout à fait. Ben, tu vois, dans ce jeu-là, c'est, à vrai dire, l'un des trucs qui est vraiment intéressant, puis peut-être le truc le plus intéressant à propos du jeu, c'est la trame sonore. Mon Dieu, elle est tellement belle. Si vous aimez le techno, si vous aimez vraiment la musique électronique, là, elle est juste. Même pas, si vous voulez pas jouer au jeu, c'est pas grave. Allez juste sur YouTube, tapez Katana Zero OST. Mon Dieu, vous allez faire du plaisir. En plus, là-dedans, il y a des nocturnes au piano, il y a du violon, vraiment, il y a du jazz, il y a du truc génial, vraiment. Là, il y a une inspiration un peu de musique japonaise. C'est comme les deux parties de l'OST.
Mais tout le temps dans l'électronique?
Oui, non, vraiment pas. Des fois, t'as une vraie nocturne, comme Chopin, là, au piano. Oh, là, vraiment,
une certaine variété,
tout à fait, exactement. Ça, c'est plus pour les moment tranquille, mais quand t'es dans le compas, c'est vraiment du techno, de l'électronique, c'est vraiment... Moi, j'ai jamais vraiment aimé ça, mais cette OST-là, elle est juste sublime. Puis là, le truc qui est vraiment intéressant quand tu joues au jeu, c'est que... Puis tu meurs, puis t'es en gros, les niveaux, c'est comme des sets, puis t'as plusieurs... c'est comme un platformer en 2D, fait que tu montes, tu descends sur les différents étages, puis t'as des ennemis. Puis si tu te fais tuer, tu rewind genre 15 secondes en arrière, tu vois.
Et ce que je vois aussi, c'est un peu fait comme un rétro gaming.
Exactement, oui. Vraiment, tout à fait, dans son style. Et puis quand on meurt, le jeu revient 15 secondes en arrière, mais la musique s'arrête pas. Fait que ça crée vraiment un flow, genre, puis c'est tout le temps de Twitch reactions, t'es tout le temps en train d'éviter les balles, de faire une roulade, de faire des trucs, des séquences vraiment, vraiment rapides. Fait qu'à la fin, quand tu maîtrises, quand on regarde des jeux, des vidéos sur YouTube, des gens qui jouent, puis sont vraiment.
Ah, ça doit être hot à voir.
Genre, c'est comme regarder quelqu'un qui joue, qui jongle avec 5K en même temps ou 10K, tu vois, là, c'est technique, c'est super rapide, c'est satisfaisant, la musique est super belle. Quand tu joues, là, t'es genre, OK, c'est le fun, c'est difficile. Vraiment, là, puis t'embarques dedans.
Ça pompe l'adrénaline.
Exactement, mais c'est un peu. Ça rappelle. C'est comme il y a un élément de pas Guitar Hero, mais tu sais, ces jeux-là aujourd'hui, c'est tellement rare des jeux où la musique où elle est intégrale au gameplay, tu vois.
Ouais.
Ou ce que tu fais, transforme la musique ou l'OST ou quelque chose de manière.
Ben un peu dans le style de Crypt of the Necrodancer.
Ah, ça c'est un bon exemple, tu vois. Ça,
c'est drôle. Moi, je suis tombé sur un petit jeu tout petit indépendant. Ça s'appelle 140. Mais le c'est vraiment la musique qui est aux bases. En fait, c'est carrément une trame sonore. Puis tous tes mouvements, il faut que ce soit synchronisé avec la musique. Puis c'est comme ça que tu arrives à faire tes moves, en fait. Mais tu sais, c'est minimaliste, là. Je veux dire, c'est abstrait, là. Tu joues un cube, un carré, puis tu te déplaces, il faut que tu ailles faire des objectifs. Mais puis à chaque fois que tu prends un objectif différent, là, il y a comme une couche de musique qui se rajoute. Puis le beat change un peu, mais il faut tout le temps que tu restes sur ton tempo. Puis c'est comme ça que tu arrives à faire tes obstacles.
Mm-hmm. Ah, oui, c'est le petit jeu...
Ouais, ben moi, j'ai eu ça dans Humble Bundle. Là.
Ouais, okay. Je connais l'histoire de ça. Ça a commencé sur les iPods parce qu'au secondaire, ça a été un jeu qui a quand même fait fureur. Là. C'est le petit carré, puis quand tu cliques, il saute, puis là, il faut que tu sautes selon le rythme de la musique. Là.
Ouais.
Fait que ça avait commencé comme ça. C'était juste un petit jeu rapide, puis ça a comme vraiment pogné, ça a fait
iPod,
fureur.
Il me semble que j'avais ça, je m'en souviens.
Ouais, je pense qu'on avait tout joué à ça, là, puis ça a comme tellement bien fonctionné comme concept, alors que, tu sais, c'est quand même simple à coder, là, je veux dire, c'est un cube, puis il faut que ça aille au rythme de la musique, mais je me rappelle, je pense que j'ai fait la moitié des niveaux dans ce jeu-là, puis il y en avait beaucoup, là. Ah, c'est une belle surprise, ouais, c'est agréable.
Tout à fait, puis dans Katana Zero, pour faire un peu les... parce qu'une histoire, c'est un truc qui est vraiment plaisant.
Ouais.
Le personnage, notre personnage principal qui manie ce katana-là, puis qui a ses pouvoirs un peu spéciaux, eh bien, il souffre de stress, de trauma post-traumatique. Mm-hmm. Donc, on peut comprendre qu'il y a eu une guerre un peu dans le passé, dans l'État ou la ville, où le gouvernement le peuple a été pris dans une terrible guerre, et puis notre personnage y a participé, puis il y a comme certains souvenirs flous de séquences en particulier, ou de meurtres de civils, les choses comme ça. Fait qu'il est comme un peu...
À tes souhaits.
À tes souhaits, Jérémy.
J'avais coupé le micro pour que personne n'entende, mais merci.
On l'a entendu pareil.
Un petit peu, ouais, voilà. Mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, le personnage, il souffre. Et puis, à vrai dire, il doit aller voir un psychologue tous les jours qui lui injecte une drogue en particulier. Oh. Et à vrai dire, c'est cette drogue-là qui lui permet de revenir dans le passé. Puis on apprend progressivement qu'il y a, une histoire un peu douteuse avec le gouvernement, des programmes secrets. Et puis lui, exactement, en gros, c'est un tueur à gages. Mm-hmm. Donc, on lui donne des contrats pour aller tuer des personnes. Puis, on ne connaît rien. On lui donne un... En gros, à chaque début de mission, tu vois, il y a une petite description de le nom de la personne, puis après, il y a un briquet qui apparaît, puis il brûle le fichier.
Y a-t-il un côté un peu psychédélique avec des hallucinations?
Un peu, oui, ouais. dans la musique, dans le visuel, puis surtout, il y a certaines séquences qui sont carrément surréelles. L'un des trucs qui est vraiment cool, à vrai dire, parce qu'en fait, avec le texte, quand il y a le dialogue, des fois, tu vas voir le texte qui est coloré à la couleur de l'arc-en-ciel, puis il danse. Fait que ça crée quelque chose de vraiment textuel. Ça donne. Puis il n'y a pas de narration, c'est vraiment juste un texte qu'on lit. Fait que soi-même, quand on le lit, quand on voit que la calligraphie est différente, une couleur de police différente, ça peut transformer un peu la manière dont on lit le texte. Oui. C'est vraiment bien fait. Franchement, j'avais jamais vu ça dans un jeu.
Parce
là.
Que le scénario que tu me donnes, ça me fait penser à un film avec Tim Robbins, L'échelle de Jacob.
Oh mon Dieu, ça, ok. Là. C'est pas aussi sombre que ce film-là, mais c'est vraiment un excellent film. J'ai jamais vu ça, là. C'est ça, Jacob's Ladder.
C'est un chef-d'œuvre. Mais c'est ça, le plot que tu me.
Exactement, mais un peu, tu vois, un personnage dans ce film-là, ben, le protagoniste, c'est ça, il souffre de stress post-traumatique, puis il devient un peu comme fou, là. Ben, c'est pas aussi sombre que ça, le jeu. Il est pas aussi sombre. Il y a beaucoup d'utilisation de violet, de mauve, de bleu pastel. C'est fait que c'est clair, qui brille beaucoup.
C'est assez coloré.
Où c'est vraiment rapide. Et puis, ben, c'est ça. Fait qu'on découvre un peu qu'est-ce qui se passe, qui on est, c'est quoi notre passé. Et puis, cette toute petite fille-là, dont le personnage prend comme soin, elle est un peu mystérieuse. Et puis, éventuellement, on apprend que peut-être qu'elle n'a jamais existé. Puis, on comprend vraiment que le personnage a vraiment un esprit endommagé, tu vois. Puis, ce qui a vraiment été cool, parce que c'était un tout petit jeu. Puis, si elle a connu un succès fou, le dev était censé, je pense que c'est une équipe d'une personne, il était censé faire un DLC gratuit, puis finalement, il est devenu 6 fois plus gros que ce qui était prévu, puis ça va devenir le deuxième jeu. Donc, c'est d'une beauté. Si vous aimez les jeux d'action, les platformers 2D, vous aimez l'art pixel, des jeux pas chers, ça coûte rien, même plein prix, c'est quoi, 15$,
20$. C'est 17,49$. Ouais, tu vois, si là. Tu le prends avec la soundtrack, donc si vous voulez encourager le dev au final, 26,98$, c'est 10% de rabais. Développeur, c'est Axisoft, mais surtout, ce qui est intéressant avec Katana Zero, comme tu l'as dit, c'est que c'est effectivement une One Man Army. Et même chose qu'avec Stardew Valley, on a du 10 sur 10 au niveau des reviews Steam, ce qui signifie que c'est de la bonne gamme.
C'est légendaire, c'est élite. Je veux dire, ça détruit la plupart de ce que les studios AAA produisent. Vraiment, là, c'est fou ce que ces gars-là peuvent faire. Là. Mais ça leur prend 7-8 ans. Là. Mais au final, ils créent un truc. C'est honnête.
C'est perfectionné.
Exactement. Puis surtout, tu as le sentiment qu'il n'y a pas un gars avec un complet, veston, cravate, qui est au-dessus du dev, puis il va dire OK, comment tu veux me faire le plus d'argent possible.
Fait que là, effectivement. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients aussi, remarque, là, parce que généralement, quand tu as quelqu'un qui est par-dessus ton épaule, ton jeu a tendance à sortir un petit peu plus vite.
Tout à vrai, ouais, tout à
généralement,
fait.
Généralement, c'est drôle, mais ça va un peu plus vite.
Des fois, ce qui se passe, c'est quand tu as personne sur ton épaule, ben, tu as comme ce qui s'est passé avec Anthem de BioWare, puis tu fais juste les devs glandouillent pendant 5 ans, puis à la fin, c'est raisonnable que le publisher débarque, puis ils disent ouais, ben, faut que tu me sortes quelque chose maintenant.
C'est ça.
Tant pis pour toi après. Là.
Fait que parce que je sais que les producteurs ont tendance à se prendre beaucoup de haine, puis je sais que c'est pas l'intention non plus, mais il faut quand même garder en tête que si le métier de producteur existe, il y a une raison derrière, mais effectivement, il y a beaucoup de producteurs qui poussent un peu trop Bethesda. mais pour ne pas donner de nom.
Naughty Dog aussi, ça n'a pas.
Vous m'excuserez, j'ai un petit rhume, là, vous m'avez entendu tousser tout à l'heure. Mais c'est quand même quelque chose qui est important que d'avoir quelqu'un qui est derrière. Il faut juste s'assurer que la personne qui est derrière a pas juste le portefeuille en tête, mais aussi la réputation de l'entreprise.
Je vous mentionnerai aussi qu'il y a quand même, comme la plupart des roguelikes, il y a quand même un élément de rejouabilité qui est vraiment intéressant avec ce jeu-là, parce que
mais
j'imagine à la base,
qu'il y a différents builds.
Ben, pas vraiment. C'est le même personnage, toujours le même pouvoir. C'est-à-dire, on peut comme éviter les balles, c'est un peu son pouvoir, puis il peut les refléter. Mais c'est surtout, au fur et à mesure, lorsqu'on joue la première fois au jeu, on trouve des armes. dans des endroits cachés, puis on peut après on rejoue au jeu avec ça, l'arbre que tu utilises, ça transforme la manière dont tu vas te promener. Tu vois, c'est tellement important, tu es tout le temps en train de couper des gens en morceaux essentiellement. Là, c'est la base de chaque. Parce que c'est ça, quand tu démarres une mission.
Ben, c'est que
tu
es un contre 500, puis tu.
Mais c'est ça, mais tu es comme dans un manoir, puis là tu vas dans les différents étages, puis peut-être que c'est comme 15 séquences d'affilée, puis c'est ça la mission, tu vois. Ouais. Puis dans chacune des séquences, l'environnement est différent, la position des plateformes est différente, puis les ennemis sont différents, les armes sont différentes. Mais tu sais, quand tu débarques, puis au lieu des paramètres avec lesquels tu es habitué de jouer, la vitesse, puis ce que tu peux faire avec ton arbre est complètement transformé quand tu changes une autre arme. Fait que ça se fait vraiment bien.
Formidable. Est-ce que tu avais fait le tour de Katana Zero, Jérémy?
Ben oui, c'est vraiment. Moi, je vous le conseille. Si vous aimez la musique, vraiment, écoutez, même si vous jouez pas au jeu, allez juste sur YouTube, l'OST, là. C'est gratuit, c'est génial, vraiment. Même si vous avez jamais écouté du techno, l'électro, là. Moi, j'aimais pas ça, puis je suis un fan de l'OST. Vraiment.
Sinon, on le mentionne pas assez, mais si vous ne voulez pas acheter le jeu, vous n'êtes pas certain si ça vaut votre argent, ben Twitch, hein. Allez encourager vos streamers locaux. Crypt of the NecroDancer, on pense aussi à Katana Zero. Il y a plein de jeux indépendants qui ont des communautés Céleste. De streaming quand même très, très, très actives, là, notamment parce qu'on est dans cette espèce d'écosystème en ce moment où ce que le streamer fait la promotion du jeu, le jeu fait la promotion du streamer. C'est un écosystème qui est très intéressant. Et allez l'encourager. Puis aussi, il y a quelque chose de fascinant avec le fait de voir le chat Twitch en action des
tout
fois.
Fait,
là,
oui. C'est pas aussi bon que ce que c'était avant. Moi, je veux dire, pour avoir connu Twitch il y a 15 ans, là, quand ça s'appelait Justin TV encore à l'époque, ouais.
Justin TV.
Ça s'appelait Justin TV.
Ah, Just In.
Ouais, je pense que c'était comme ça. Avant Twitch, ça s'appelait de même, là, avant que ce soit racheté par c'est Amazon qui a racheté Twitch, je ne comprends pas. Ouais. Fait que c'était une autre époque.
Ben, vous irez me lâcher un follow, monsieur Mathieu Gingras.
OK.
Attends un peu, je pense que j'ai un son pour que le monde y font leur plug.
Non, mais je fais surtout de la musique, moi.
OK. Hey, listen!
Hey, listen, voici une plug. Tu me le diras la prochaine fois, je vais mettre la petite fille ennuyante de Legend of Zelda, justement. Parfait. Donc, on va passer sur Dark Souls 2. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un peu de contexte, moi, au début du mois, je me suis mis en quête d'essayer de renouer avec des jeux que je n'avais pas aimés à l'époque, que ce soit pour plein de raisons. Puis là, quand je parle de l'époque, je veux dire quand j'avais 17 ans, fait qu'on remonte à 8 ans à peu près. J'avais fait Faster Than Light, qui, bien que je était capable de voir les qualités, mon impression du jeu n'avait pas particulièrement changé parce que tout l'aspect random n'avait pas, ben c'était encore là, puis c'est ça qui faisait que des fois ton playthrough était complètement dépendant de si t'étais un petit peu chanceux ou pas, puis ça je trouve que c'est dommage au niveau d'un jeu vidéo. Dark Souls 2, donc, qui est un peu le mouton noir dans les séries From Software. From Software, qui est une entreprise qui remonte à loin, hein, parce qu'on les a surtout connus avec Demon's Souls, mais on remonte aux années 80 là, quand on parle de From Software. Ça a pris du temps avant que leur jeu commence à vraiment obtenir une certaine traction, mais ils font du RPG depuis extrêmement longtemps, puis c'est quelque chose qui les a toujours, qui a toujours été allé les chercher. Pour la petite histoire, lorsque Demon's Souls a vu le jour, en fait, l'entreprise, elle était en train de mourir, là. C'est-à-dire que financièrement, ça allait plus, tout le monde était dans la galère, puis ils se sont juste dit, ben, vous savez quoi? Là, j'utiliserai pas ce mot-là, mais vous savez-vous quoi? Moi, F. Ils se sont dit, on va faire le jeu que nous, on a envie de faire. On va laisser de côté toutes les règles qui font qu'un bon jeu est un bon jeu, puis on va mettre nos propres règles. Puis si ça marche pas, bon, on était déjà en train de tomber à terre de toute façon, fait que allons-y. Pis c'est cette prise de risque-là chez From Software que les gens ont toujours trouvé extrêmement hot. C'est cette prise de risque-là qu'on encourage, sauf que quelque chose que je pense qu'on fait pas assez, c'est que lorsqu'il y a une prise de risque qui est faite, puis qui a réussi, on va souvent aller glorifier. T'sais, Dark Souls, on en parle beaucoup, c'est un monument du jeu vidéo maintenant, ça a créé le genre du Souls-like. Mais lorsque ça échoue, on va critiquer, on va insulter. L'Internet, c'est capable d'être méchant avec les développeurs de jeux vidéo. Je pense qu'on a un consensus là-dessus.
L'Internet, méchant, c'est impossible.
Non.
Il y a que des licornes. Mais fait que je veux un peu essayer de remettre les pendules à l'heure. Et c'est pour ça que j'ai rejoué à Dark Souls 2, parce que Dark Souls 2, pour les défauts qu'ils ont, qui sont très vrais malheureusement, mais c'est un jeu qui avait de l'audace. C'est un jeu qui a été audacieux. Tu sais, Dark Souls 3 a été peaufiné quelque chose qui était déjà là. Elden Ring est venu aller chercher tous les éléments qui fonctionnaient très, très bien, puis ça a fait un excellent jeu. Sauf que Dark Souls 2, c'est le mouton noir parce que c'est le jeu qui a essayé d'être audacieux après avoir été audacieux. On pense notamment au power stancing, c'est-à-dire dans Dark Souls 1, ben, t'avais une épée et un bouclier. Là, dans Dark Souls 2, si tu veux, tu peux te battre avec deux épées, tu peux te battre avec deux lances, tu peux te battre avec deux grandes épées.
Une épée, une massue, une dague, une épée, n'importe quelle combinaison.
C'est ça,
vraiment.
Tu peux faire toutes les combinaisons que tu veux.
Est-ce qu'on peut frapper les gens avec un poulet?
non, mais presque. Presque avec
quasiment,
un.
Quasiment.
Presque.
Il y a des armes jokes dans le jeu. Mais, fait qu'on peut aller chercher quand même une certaine diversité. Il y a une grande diversité de builds. C'est aussi le Dark Souls qui a apporté beaucoup de nouveaux sorts. Dans Dark Souls 1er, du nom, les sorts c'était flèche d'arme, grande flèche d'arme, lourde flèche d'arme, grosse flèche d'arme. C'était redondant.
C'est le même sort. C'est comme triple 4, 4, 5. Je comprends ce que je disais. C'était très redondant.
C'était tout le temps le même sort. Là, dans Dark Souls 2, même s'il y a des sorts qui fonctionnent moins bien, il y a des sorts qu'on voit que la hitbox n'est pas tout à fait bien faite, ben, au moins là, on est allé chercher de l'innovation au niveau des sorts. T'as des sorts qui vont être plus lents, mais qui vont suivre l'adversaire. T'as des sorts qui vont améliorer tes attaques. Puis aussi, ils ont complètement revamped, ils ont modifié la manière dont les buffs d'armes fonctionnent. C'est-à-dire que si tu veux embuer ton arme de magie, dans le premier Dark Souls, t'étais obligé de monter ta stat d'intelligence à côté. Dans Dark Souls 2, ils ont rajouté un item qui fait que tu peux descendre la valeur d'intelligence maximale dont t'as besoin pour utiliser un sort, ce qui te permet d'utiliser des sorts avec moins d'intelligence, puis ça te permet d'aller chercher une plus grande diversité de builds. Fait que ça, c'est des choses que j'ai beaucoup appréciées dans Dark Souls 2. Puis ils ont osé, ils ont tenté des choses. Par contre, pour continuer dans les choses où ils ont osé, mais que ça n'a pas fonctionné, les boss, catastrophe, sincèrement. Il y a beaucoup de combats de boss dans Dark Souls 2, notamment ceux du DLC qui sont incroyables, que tu y joues et tu dis « Ok, wow, genre le roi d'ivoire, c'est un de mes combats de boss préférés. » Je pense que c'est mon combat de boss préféré juste à cause de comment c'est fait. Je vais y revenir dans pas long. Mais avant de se rendre là, on a beaucoup de boss avec très peu d'imagination parce que les designs sont complètement différents. On a des espèces de créatures blob, on a des grenouilles avec des bras. Bref, on a des monstruosités dignes de Berserk. Sauf que le gameplay, c'est tout le temps le même. Une fois que t'as compris un des boss, t'as compris tous les boss dans ce jeu-là. Puis ça, je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'il va te faire un swing, deux swings, trois swings. OK, c'est ta fenêtre d'opportunité pour attaquer. Fait que j'entrais dans une zone de boss, j'attendais trois attaques, j'attaquais. Ça, c'était quand même un peu dommage. Puis comment est-ce qu'ils ont essayé de se reprendre? Ils ont essayé de modifier les timings de certains boss. Fait que ce qu'ils faisaient, c'était qu'au lieu de faire trois attaques, ils faisaient une, deux. Ils te font croire qu'il en fera pas une troisième, puis ensuite, il fait la troisième. Fait qu'il y a comme un délai au niveau de son attaque où ce que tu vas le voir charger, puis au moment où ce que tu penses qu'il va frapper, il frappera pas. Ce qui fait que tu vas rouler dans le vide, puis ensuite, il va frapper. Ben ça, vous voyez, c'est quelque chose que je trouve qui est un peu injuste vis-à-vis du joueur, parce qu'on vient punir ses réflexes pour au final lui dire, ben tu sais quoi, tes réflexes, on les oublie. Maintenant, faut que tu comprennes le boss par cœur. Puis ça vient un peu gâcher au niveau du skill. Encore une fois, aussi un défaut qui est inhérent au jeu, le placement des ennemis. Le placement des ennemis, pas particulièrement bon. Dans les autres Dark Souls, en fait, ce qui fait que le jeu est intéressant, c'est que le placement des ennemis est tellement bien fait que même si t'as un seul ennemi faible, ben, si t'oublies qu'il est là, il va te backstabber dans le dos, tu vas te prendre une tonne de dégâts, puis tu vas paniquer, tu seras pas bien positionné, il y a des trous partout autour de toi, fait que tu vas mal rouler, puis tu vas peut-être tomber dans le vide, tu vas être obligé de sortir ton bouclier, tu vas devoir bloquer des coups qui arrivent. Dans Dark Souls 2, on va te mettre une dizaine de mobs, débrouille-toi avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de situations où, plutôt que d'avoir une grande diversité au niveau du positionnement des ennemis, au lieu de placer un objet qui, au final, ne sert à rien pour attirer ton attention, pour que tu regardes ailleurs, on va juste te mettre des ennemis qui sortent de nulle part puis qui vont commencer à t'attaquer. Puis ça peut rapidement devenir frustrant parce que si tu joues pas avec un bouclier, ben, il y a un concept dans Dark Souls qui c'est le stagger, que lorsque t'es stagger, puis c'est particulièrement vénère dans Dark Souls 2, là, si t'as plus de barre d'endurance, ton perso va rentrer dans une animation où il est un peu étourdi. Puis tu peux encore être étourdi pendant que t'es étourdi. Fait que comme t'as 10 ennemis sur toi, ben tu vas rester étourdi jusqu'à ce que les 10 ennemis t'aient tué. Ça peut être quand même assez frustrant de sentir que pendant 10 secondes, t'as plus du tout le contrôle de ton personnage. Ouais, non mais exact. Sauf que, voyez, ce qui faisait la recette des jeux Dark Souls, c'était pas tant cette difficulté plus que le fait que quand tu sentais que tu mourais, tu sentais que c'était juste. Là, si je veux pas mourir face aux 10 ennemis, je suis comme obligé d'augmenter ma barre d'endurance. Puis ça, c'est pas quelque chose nécessairement que t'as envie de faire lorsque t'as envie de jouer un mage, lorsque t'as envie de jouer un archer. Ce qui est malheureux parce que dans Dark Souls 2, contrairement à Dark Souls 1, t'as envie de jouer un mage, t'as envie de jouer un archer parce qu'ils sont bons, sont bien faits, sont bien construits. Ce qui fait que toute cette diversité de builds qui est super exceptionnelle, hein, tu peux jouer avec à peu près n'importe quoi, puis le jeu va être agréable. Puis là, lorsque je dis agréable, je veux pas dire juste tu vas passer le jeu, juste la diversité des armes fait que t'as envie de faire plusieurs armes, de faire plusieurs playthroughs, de faire plusieurs trucs, ben ça vient un peu gâcher ça. Comment est-ce qu'ils sont venus compenser ça au final? Ils ont installé une mécanique que si tu tues le même ennemi à 10 reprises, il va arrêter de spawner. Puis si jamais tu veux le faire réapparaître, à ce moment-là, il y a un item que tu peux utiliser. Ça, c'est intéressant. C'est quelque chose que, encore une fois, le jeu a osé, mais que je trouve, puis en même temps, le From Software nous a donné raison, qui a mal été apporté. Parce que ce que ça fait, c'est que si t'as eu beaucoup de difficultés avec le jeu, que t'as eu de la difficulté à obtenir des armes, lorsque les ennemis disparaissent, si tu connais pas assez les mécaniques, si tu comprends pas, tu pourras plus monter de level, il n'y a plus d'ennemis. T'es mort 10 fois contre eux, tu les as tués 10 fois, t'as perdu tes armes, t'as fait un peu du back and forth. Fait que si t'es le moindrement pas bon dans ce jeu-là, t'es puni pour être pas bon dans ce jeu-là. Et encore une fois, c'est là où on arrive au plus gros défaut, selon moi, du jeu. Mais encore une fois, ça vient du fait qu'il a osé, puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est très admirable. Dans Dark Souls 2, un peu comme dans Demon's Souls, même si c'est moins bien fait, lorsque ton personnage meurt, il perd des PV maximum.
OK, wow. C'est ce que ça m'étonne que tu... Parce que c'est vraiment intéressant, tu vois, parce que ça, ça transforme quand même le maillon.
Il y a pas ça dans les vieilles dynamiques de Donjons & Dragons aussi?
Oui, aussi.
Ouais.
Mais c'est l'enjeu, en fait, que je vais apporter, parce que moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans certains types de jeux. Dans Demon's Souls, je trouve que c'est extrêmement bien fait. Dans Dark Souls 2, particulièrement lorsque ta compagnie est encore en train de créer la réputation de ton jeu, de punir ton joueur parce qu'il a mal joué, Je trouve ça dommage, surtout qu'à ce moment-là du jeu, il existe un anneau qui te permet de ne pas perdre la totalité de ta vie lorsque... Bref, normalement, tu peux descendre en bas de 50% de tes PV max lorsque tu n'arrêtes pas de mourir à répétition. Il y a un anneau qui fait que tu ne descendras pas en bas de 75%. Sauf que ton joueur a déjà de la difficulté à avancer, puis là, tu viens comme le punir. Lorsque dans Dark Souls 3, tu avais une mécanique que si tu mourais, tu perdais des PV max, mais ces PV max-là, c'était un bonus que tu t'étais octroyé avec un item. C'est pas ta barre de PV en tant que telle qui descendait, c'est juste que tu n'avais plus le bonus
tout
de
à
PV.
Fait. Toi, ça, parce qu'à la base, que c'est censé représenter. Ça fait partie un peu de l'élément méta un peu du personnage.
Ouais, mais ça fait partie
de l'histoire. Quand tu meurs, c'est ça. Quand tu meurs, le personnage est censé perdre progressivement espoir. Et donc, il devient de plus en plus frêle jusqu'à temps qu'il devienne l'un des.
Holo.
C'est une espèce de zombie essentiellement, là,
ouais.
Du reste du jeu, tu vois. Puis t'es l'un des derniers êtres humains qui a encore une conscience essentiellement.
Exact.
Donc, à la base, c'est ça. C'est ce qui est censé se passer dans la méta, mais dans le gameplay, ça a une conséquence. Puis des fois, c'est peut-être mal exécuté.
Exact. Parce qu'au niveau de l'histoire, c'est extrêmement intéressant de faire ça parce que ça fait que t'as peur de mourir. Ça fait que tu veux faire attention à chacune des trucs que tu fais. Puis ça, c'est super cool. Sauf que la raison pour laquelle ça marche dans Demon's Souls puis pas dans Dark Souls 2, c'est parce que dans Demon's Souls, lorsque tu meurs, t'as toujours l'impression que c'était justifié. Dans Dark Souls 2, des fois, c'est des murs qui sont mal codés. Des fois, c'est le plancher qui est mal codé. Des fois, c'est que tu t'es fait attaquer par 10 ennemis puis tu n'avais aucune manière de te défendre à part de monter une stat que tu savais même pas qui existait. Ça peut être rapidement frustrant parce que dans Demon's Souls, quand tu perds tes PV max, le jeu est adapté en fonction du fait que tu les auras pas, tes PV max. Dans Dark Souls 2, ils partent du principe que tu les as parce que les ennemis, dans ce jeu-là, ils frappent fort. Ah, motadine! Fait que c'est là un peu où tu vois que From Software, ils étaient un peu... ils étaient mitigés. Ils n'étaient pas tout à fait certains de l'os qu'ils voulaient s'en aller avec Dark Souls 2 parce que tu vois qu'il y a plein d'éléments qui vont dans une direction qui font « OK, notre jeu est difficile, on va installer des mécaniques qui vont par rapport à ça. » Mais aussi, où ce qui vont dans une direction où ils se disent « OK, on veut créer de la variété, on veut créer de la diversité, on veut que les gens aient du fun. » Le fait qu'ils aient emprunté ces deux chemins-là en même temps, je pense que c'est ça qui fait que Dark Souls 2 est devenu un peu cette espèce de mouton noir. Parce que
pas tant la difficulté que le fait qu'il soit mal balancé.
Non, parce que je pense en fait que c'est leur philosophie pendant Dark Souls 2, parce que c'est pas Miyazaki qui normalement lui fait tous les Dark Souls qui a touché à Dark Souls 2. Puis je pense que ça a été ça l'enjeu. Puis il y a un achievement, un succès dans Dark Souls 2, je pense, qui est très représentatif du gameplay que j'ai eu, de mon expérience de jeu. La première fois que tu meurs, t'as un achievement qui apparaît qui te dit bienvenue à Dark Souls.
Okay.
C'est le seul Dark Souls qui fait ça. Puis il y a une raison. Parce que Dark Souls 1 et 3, c'est pas tant que le jeu est difficile, c'est que le jeu ne te prend pas par la main. Donc, on s'attend à ce que tu meurs. Dark Souls 2, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait avec l'objectif en se disant « Les gens, ils ont aimé que ça soit difficile. Les gens, ils ont aimé que ça soit difficile. Fait qu'on va rendre ça dur. » C'est pas la difficulté qui... Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas la difficulté qui fait vraiment la patte des From Software. C'est le fait que c'est un jeu d'exploration, que lorsque tu meurs, c'est que t'as pas été suffisamment investigué. Puis c'est là où j'arrive avec les grosses qualités de Dark Souls 2 avant qu'on termine l'émission. L'exploration, elle est incroyablement encouragée, puis ça fait plaisir à voir. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Elden Ring, mais qu'on avait perdu avec Dark Souls 3. L'exploration est encouragée, il y a des bonfires, donc qui sont un peu tes checkpoints dans ce jeu-là, que tu ne peux pas accéder si tu n'utilises pas certains objets. Il y a des armes uniques qui vont facilement t'aider avec des boss que tu n'auras pas accès si tu n'as pas pris la peine de fouiller l'entièreté de la zone, si tu n'as pas vérifié qu'il y avait des murs secrets. L'exploration est fortement encouragée. Puis ça, c'est quelque chose qui fait plaisir. On pense aussi les DLC qui sont, je pense, l'apothéose des bonnes choses, des bonnes mécaniques qu'il y a à l'intérieur de Dark Souls 2, où ce que il y a certains combats de boss qui deviennent plus faciles si tu prends la peine d'explorer la zone avant. Donc, encore une fois, ça, c'est hot, parce que si tu veux que le combat soit extrêmement difficile, t'as juste à pas explorer la zone. Si tu veux, par contre, te faciliter la vie, si tu veux aller chercher le jeu dans son intégralité, t'as un choix, au final, que tu peux faire, parce qu'il y a personne qui te force à aller chercher les soldats supplémentaires pour aller combattre tel boss. Il y a personne qui te force à aller éteindre ses feux pour que le boss arrête de régénérer ses PV. Puis ça, c'est du très bon design. Selon moi, l'apothéose de Dark Souls 2 se trouve vraiment au niveau des DLC. Puis c'est ça qui fait plaisir, c'est ça qui fait du bien, parce qu'on voit que From Software, avec toute cette audace-là, Dark Souls 2, ça a comme été l'escalier manquant pour vraiment se propulser en tant qu'industrie du jeu vidéo. Puis ça, je pense que rien que pour ça, ça vaut la peine que vous ayez sur Steam, que vous jouiez à Dark Souls 2. Simple recommandation, par contre, montez l'adaptabilité. Le jeu devient tout de suite beaucoup plus agréable lorsque vous voulez boire vos fioles d'estus, qui grossièrement est ce qui vous permet de récupérer vos points de vie. Nous avons beaucoup parlé, donc nous n'aurons pas non plus le temps de mettre la musique d'outro, mais c'était un plaisir que de discuter avec vous, messieurs. Est-ce qu'on se revoyait la semaine prochaine?
Peut-être, probablement pas pour moi la semaine prochaine, mais c'est sûr que dans les mois, peut-être une année prochaine, Jérémy et moi, on va avoir un débat sur ce jeu-là, là, Dark Souls.
Ça serait le fun.
Moi, c'est mon favori dans la série, tu vois. Fait que là, je l'ai laissé faire son plaidoyer devant le juge. Mais moi, j'arrivais avec mon contre-plaidoyer, là, monsieur le juge. Attendez, là.
On fera ça, oui.
Exactement, oui.
Effectivement, parce que l'histoire est très intéressante, puis il y a beaucoup de belles qualités dans le jeu.
C'est toujours un plaisir d'être ici. C'est une série Dark Souls que j'ai absolument pas touchée. Donc, c'est sûr, c'était intéressant d'en entendre parler. Tu sais, parle juste mini parenthèse avant qu'on termine, il reste quelques secondes. Tu sais, souvent, ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'on va négliger le level design pour que les gens découvrent par eux-mêmes les mécaniques, puis on va le dire directement, alors que c'est si simple de le montrer, puis que ça rentre pas compte. Puis on va mettre ça trop facile. Tu sais, on peut perdre. C'est à ça que ça sert le jeu, apprendre qu'on peut perdre, puis c'est pas grave, tu sais.
Formidable. Et sur ces sages paroles, on se dit donc à la semaine prochaine. Merci à tous.
Au revoir.
Attention, veuillez prendre note qu'il s'agit d'une rediffusion de l'émission que vous tentez d'écouter. Nous retournerons à la programmation normale par la suite.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.cheese.ca. Diga.